Bonjour à toutes et à tous qui venez d'allumer votre radio. Que vous soyez confortablement assis, chez vous ou en voiture, j'espère que vous apprécierez cette émission qui s'intitule « Sur les traces du mythe grec ». Dans cette émission mensuelle, je vous présenterai certains aspects de la mythologie grecque. Certains d'entre vous reconnaîtront des mythes, des héros ou des dieux, et d'autres pourront ainsi les découvrir. Je serai votre présentateur, je m'appelle Marvin, élève au lycée Notre-Dame de Chartres, 17 ans. Je suis passionné par la période de l'Antiquité, et j'espère bien vous transmettre cette passion et vous faire partager les histoires et les mythes de ma civilisation favorite. Avant toute chose, je vous souhaite une bonne reprise en ce mois de septembre, qui clôt la saison estivale. Aujourd'hui, nous allons pouvoir nous intéresser à un mythe que vous connaissez tous sans le savoir. Un mythe conté par Ovide dans ses Métamorphoses, mais qui aura marqué l'histoire grâce à William Shakespeare. Nous parlerons du mythe de Pyrame et Thisbé, peut-être les premiers amants maudits dont les aventures ont été couchées sur le papier. Toute l'intrigue de leur vie donnera naissance au mythe shakespearien de Roméo et Juliette. Alors, si vous avez aimé cette pièce, si vous souhaitez en connaître les origines les plus anciennes, si vous sentez l'âme romantique, c'est parti!
Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, just singing." My boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dream your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know, a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet.
Avant toute chose, je vous annonce que je ferai des références au texte d'Ovide, le quatrième livre, en me servant d'une traduction d'Anne-Marie Boxus et de Jack Poussé, datant de 2006. Pour commencer, Pyrame et Thisbé étaient deux jeunes Babyloniens habitant des maisons voisines. Pyrame était un jeune homme considéré comme le plus beau des jeunes hommes de la cité, tandis que la belle Thisbé était à ce qu'il paraît la plus exquise des jeunes filles de l'Orient. Babylone, quant à la ville, était un joyau de l'Antiquité. Pour vous la situer, imaginez une impressionnante cité à plus de 100 km au sud-est de l'actuel Bagdad, en Irak, dans la continuité de l'Euphrate. On disait de cette ville qu'elle avait été entourée de hautes murailles de briques en terre cuite par la grande Sémiramis, qui s'avère être une femme importante de l'histoire de l'Antiquité. C'est elle d'ailleurs qui ordonna la construction des jardins suspendus de Babylone, considérée comme l'une des sept merveilles du monde antique. Et pour en revenir à Pyrame et Thisbé, Donc, voisins, ils vécurent leur enfance normalement et, vivant à proximité, leur rencontre fut inévitable. Cette proximité favorisa aussi le tissage de liens forts et d'une très belle amitié entre eux deux. Avec le temps, la complicité qui liait les deux jeunes enfants évolua aussi vers un sentiment plus profond, plus passionnel. À l'adolescence, ils s'éprirent l'un de l'autre, éprouvant un désir ardent de passer le restant de leurs jours dans les bras de la seule personne au monde qui comptait à leurs yeux. Dans leur tête, tout était déjà prévu, leur avenir était déjà tout tracé. Ils allaient se marier, former un couple uni, peut-être même avoir des enfants, une fois l'hymen célébré. Ils aspiraient à une vie de rêve bien remplie, en somme. Seulement, il y a toujours un mais qui vient contrecarrer les belles histoires où tout semble simple. Et l'histoire de ce jeune couple ne fera pas exception à la règle. Leurs parents, en effet, respectifs, s'opposèrent à leur union de manière ferme et irrévocable. Face à cette idylle naissante, leurs parents décidèrent de les empêcher de se voir. Ils espéraient ainsi qu'en les éloignant physiquement, la flamme qui venait de s'allumer s'éteindrait sans demander son reste. Mais cela, c'était sans compter sur le destin et sur la puissance du sentiment amoureux qui, à ce qu'on dit, donne des ailes. Il était impossible, effectivement, à Pyram et Thisbé de désobéir à leurs parents. Car en ces temps-là, c'était un modèle familial très patriarcal, c'est-à-dire un système social dans lequel l'homme, en tant que père, est dépositaire de l'autorité au sein de la famille, ou plus largement au sein du clan. De même, il arrivait souvent que ce soit les parents qui arrangent les mariages pour assurer une descendance et accroître la richesse de la famille. Néanmoins, les deux amoureux trouvèrent une manière de contourner l'interdiction de leur géniteur et prirent l'habitude de se parler à travers une fissure, un véritable cadeau des dieux, dans un mur mitoyen à leurs deux maisons. Dès qu'ils le pouvaient, ils se rendaient au fond de leur jardin et s'échangeaient des mots doux, des espoirs comme seuls les tourtereaux en sont capables. Ils rêvaient du jour où ils pourraient se retrouver, s'enlacer et consommer leur amour d'un délicieux et voluptueux baiser, scellant ainsi la promesse d'une vie, le serment d'un amour éternel entre eux. Hélas, ils ressassaient également cette limite qui les empêchait de se côtoyer. Ce mur dont la fissure était une aubaine était aussi la source de leur éloignement, quelques briques qui les empêchaient de se toucher. Quelques briques qui les empêchaient de se contempler et de s'embrasser. Seuls les mots pouvaient circuler entre eux, donnant ainsi une certaine magie à leur rendez-vous, comme plongé dans un univers où les yeux fermés, tout aurait été possible et aurait parlé à l'âme en secret, et où ils se seraient laissés enivrer par les mots doux de leur âme sœur. Un amour très difficile, mais pas impossible. Bien, il est temps de faire une petite pause. Nous retrouverons d'ici quelques instants après un court intermède musical pour découvrir ce qu'il va advenir des jeunes amants. Hiram disait dans l'extrait des Métamorphoses d'Ovid : Mur jaloux, pourquoi t'opposes-tu à notre amour ? Que t'en coûterait-il de nous permettre de nous rejoindre, ou si c'est trop, de t'entr'ouvrir pour que nous puissions enfin nous embrasser ? Mais nous ne sommes pas ingrats. Nous reconnaissons que c'est grâce à toi que nos paroles ont pu arriver jusqu'aux oreilles de l'être aimé. Ainsi, on comprend bien à travers ce petit monologue de Piram que le couple se résignait à leur sort, mais en même temps, ils espéraient plus. Nous-mêmes, que ferions-nous à leur place ? Resterions-nous sans agir, sans réagir ? Après tout, les relations à longue distance sont toujours bien compliquées, même de nos jours avec les téléphones portables, Internet, la visioconférence. C'est pourquoi il arriva le jour où ils décidèrent de reprendre leur vie en main et de se battre, de faire des sacrifices, de prendre des risques pour vivre enfin leur amour de la manière dont ils l'entendaient. Tout a une fin et cette situation les rendait tellement malheureux que le vase débordait et les incita finalement à agir, une bonne fois pour toutes. Un plan se forma dont seuls le mur et le ciel furent les témoins. À la nuit tombée, chacun s'arrangerait pour tromper la vigilance de ses parents, sortir de son foyer et quitter la ville où ils ne pourraient jamais vivre leur amour, leur vie, au grand jour. Ils se donnèrent rendez-vous au pied d'un grand mûrier blanc situé près de la tombe de Ninus, érigé par la reine Sémiramis envers son défunt époux. À quelques pas de là, où coulait un ruisseau à l'eau claire et rafraîchissante. Ce lieu n'avait pas été choisi par hasard. C'était LE lieu de rendez-vous de tous les couples de la cité. Il suffit d'imaginer le ruissellement de l'eau, le murmure du vent dans les branches du mûrier, et la lune éclairant le ciel pour déceler tout le potentiel et tout le romantisme de ce lieu idyllique, aux allures hors du temps et de l'espace. Cette journée fut la plus longue de toute leur existence. Imaginez la scène, chacun attendant impatiemment que le soleil amorce sa descente, que la nuit tombe pour pouvoir enfin vivre leur amour et cueillir les roses de leur vie. Le temps semblait s'être arrêté, ni Thisbé, ni Piram n'arrivaient à prendre conscience que cette nuit, enfin, ils seraient libres et pourraient tout redémarrer à zéro. Et enfin, le ciel se décida à s'assombrir, et à la faveur de l'obscurité, Thisbé s'enfuit de chez elle la première. Elle était tellement impatiente, tellement enjouée et heureuse qu'elle arriva même en avance au lieu du dit rendez-vous. L'amour lui donnait des ailes. Elle attendait que son prince charmant arrive, haut perché sur son bel étalon blanc, quand, soudain, une lionne qui venait s'abreuver au ruisseau s'approcha d'elle, humant la délicate odeur de la chair fraîche. Thisbé, la voyant approcher grâce au clair de lune, la gueule dégoulinante du sang des bœufs qui venaient sûrement de périr dans les pâtures voisines. La lionne, trop proche pour ne pas avoir vu Thisbé, mais pas assez pour passer à l'attaque, continuait inlassablement de s'approcher de sa démarche féline. Thisbé pouvait contempler la prédatrice, qui se savait la plus forte, la plus rapide, la plus dangereuse. Et c'est alors que, mue par son instinct de survie, elle réussit à réagir et s'enfuit en direction d'une forêt adjacente au lieu du dur rendez-vous. La lionne, ayant satisfait ses besoins avec le bétail, ne prit pas la peine de pourchasser la jeune fille, complètement affolée, terrifiée, persuadée qu'elle n'allait pas s'en sortir. Elle voyait déjà les derniers instants de sa vie découler. D'ailleurs, dans sa hâte, Thisbé perdit le voile qu'elle portait et qui lui avait servi à dissimuler son visage en s'échappant de la ville. Ce dernier tomba au sol et la lionne le saisit entre ses crocs ensanglantés, le tachant ainsi du sang de ses précédentes victimes. Elle finit par dégarpir à l'approche du bruit des pas de Piram, qui se présentait enfin au rendez-vous, qui, pour le moins que l'on puisse dire, venait de tomber à l'eau. Le jeune homme, aussi enjoué que l'était sa moitié, remarqua dès son arrivée que quelque chose avait cloché, qu'il y avait un problème. Thisbé n'était pas là, son voile était étendu par terre. Pire encore, il était recouvert du sang frais. Là, les pires scénarios possibles défilèrent dans l'esprit du jeune Babylonien. Il était persuadé que ce sang appartenait à Thisbé et signifiait la mort de sa bien-aimée. Il lui était inconcevable que leur histoire s'arrête ainsi. Que tout soit fini avant même d'avoir réellement commencé. Il se demandait comment le fatum, c'est-à-dire cette fatalité du destin, pouvait se montrer si cruel envers deux êtres dont le plus grand désir était un amour des plus purs. S'en suivit un long monologue qu'Ovid nous relate si bien. La même nuit perdra deux êtres qui s'aiment. De nous deux, elle était la plus digne d'avoir une longue vie. Je suis coupable, c'est moi, pitoyable ami qui t'ai perdu, qui t'ai demandé de venir la nuit, et je ne suis pas arrivé le premier. Déchirez mon corps de vos féroces morsures, dévorez les chairs du criminel que je suis, ou au moins vous tous qui habitez au pied de ce rocher. C'est le fait d'un lâche qui souhaite la mort. Pyram ne peut plus supporter de respirer un air que ne partage plus celle qui devait partager sa vie. Il décide d'en finir avec son chagrin et cherche en son trépas une plus douce peine, une manière de se rapprocher de celle qu'il a aimée et continue d'aimer bien plus que lui-même. Il se dirigea en dessous du mûrier, l'endroit où ils devaient se réunir, et respira une dernière fois le parfum du vêtement. Il s'écria « Maintenant, mûrier, reçois aussi le sang que je vais verser !» Et sur ce, il tira du fourreau qui pendait à son côté une dague tranchante. Se l'enfonça au plus profond de ses entrailles, et un voile couvrit tout doucement ses yeux embués de larmes et d'une peine incommensurable, celle d'avoir perdu l'objet de son plus cher désir. La mort était en train de l'emporter vers les enfers. Et vous aurez deviné la suite. Tisbé, encore toute tremblante, revient sur ses pas, ne voulant surtout pas que Pyram pense qu'elle ait changé d'avis quant à eux deux. Elle le cherchait du regard, balayant les environs du rendez-vous, et soudain, un bruissement du pied du mûrier attira son attention. Et la rendit folle de tristesse. Elle aperçut Pyram, dont le sang carmin formait des canaux sinueux sur le sol. Elle s'élança à son chevet et était prise de frénésie, d'un mal si lourd, si dur, si fort qu'il la terrassait. Ses larmes coulaient et ruisselaient sur le corps presque inerte de son amant. Là, elle l'implora de le regarder. « Pyram, quelle catastrophe t'a arraché à moi ?»« Pyram, réponds. C'est ta Tisbé bien-aimée qui t'appelle. Écoute et relève ton visage qui défaille. » C'est d'ailleurs ce qu'il fit au son de la voix de son âme sœur et la mention de son nom. Tisbé. Il releva la tête, contempla sa bien-aimée, sa Tisbé, comme un ange venu du ciel pour lui. Son visage retomba presque aussitôt, pour ne plus se relever. C'en était fini. Bel et bien, et définitivement. Et pour conserver le suspense, je vais faire une petite coupure à cet endroit-là. Nous retrouvons d'ici quelques minutes, après une petite parenthèse musicale, pour voir la dernière réaction de Tisbé.
Un jour, mon amour.
apprendre, pendant que Pyram succombait à la blessure qu'il venait de s'infliger, Thisbé comprit presque instantanément la cause de la mort de son amant, son voile taché de sang et le fourreau vide qui traînèrent à côté du mûrier. Il l'avait crue morte et avait voulu la rejoindre. Ainsi, un monologue final intervient pour susciter la pitié et la tendresse, la catharsis, cette purgation des sentiments propres aux différents mythes. Thisbé s'exprime une dernière fois et implore les dieux, implore la nature, implore leurs pères respectifs de donner à leur amour une dimension éternelle. Ta main et ton amour t'ont perdu, malheureux. J'ai aussi une main vaillante, pour ce seul acte j'ai aussi mon amour. Il me donnera la force de me frapper. Je te suivrai dans la mort, et on dira que je suis la misérable cause et la compagne de ta mort. Et toi, qui ne pouvais m'être arraché que par la mort, hélas, tu ne pourras m'être enlevé, même dans la mort. Quant à vous, nos très chers malheureux pères, le mien et le sien, entendez nos prières. Nous vous demandons une chose, à ceux qu'un amour solide a uni et que leur dernière heure a réuni. Ne refusez pas qu'ils soient déposés dans un même tombeau. Et toi, ô arbre qui couvre un seul misérable cadavre de tes branches, bientôt tu en abriteras deux. Conserve les marques de cette mort et porte toujours des fruits sombres, harmonisés au chagrin, témoignage d'un double trépas. Sur ces mots, elle enfonça la dague encore tiède et couverte du sang de Pyram au plus profond de son corps. La mort de Pyram a induit la mort de Thisbé. Leur sang se mêla aux racines du mûrier dont les fruits prirent une teinte violacée. Voilà pourquoi les murs portent cette couleur. Elle devint le symbole d'un amour au-delà de la mort. Les dieux furent aussi tellement émus par ce sacrifice, ultime de soi, qu'ils firent en sorte qu'un fleuve d'Asie mineur prenne le nom de Pyram, tandis que la source qui l'alimentait pour l'éternité s'appellerait Thisbé. Les pères, eux aussi, prirent conscience de leur erreur. Pour avoir refusé l'union de leurs enfants, ils les avaient perdus pour toujours. Ils placèrent alors leurs cendres dans une seule et unique urne pour que Pyram et Thisbé demeurent ensemble, et ce, pour l'éternité. Voici pour le mythe de Pyram et Thisbé et leur tragique histoire d'amour. Pour être tout à fait complet, je devrais vous dire brièvement qu'il existe une autre version de ce mythe, beaucoup plus courte, selon laquelle Thisbé tombe enceinte avant le mariage, chose inconcevable à cette période, qui conduit les deux amants au suicide. Et vous l'aurez compris, j'ai privilégié la version d'Ovide, qui est un petit peu plus romanesque, et qui témoigne du conte mythologique. Et je pense que vous aurez très bien compris aussi d'où vient l'intrigue principale de Roméo et Juliette après cela. Retenez une chose, le mythe fondateur est par excellence de l'histoire d'amour brisé et du sacrifice pour l'amour d'un être aimé et celui de Pyram et Thisbé, mais l'illustre histoire de Roméo et Juliette de William Shakespeare est devenue un nouveau mythe à part entière qui a pour puissance et pour mérite d'avoir réussi à éclipser pour la première fois le mythe originel. C'est l'un, si ce n'est le seul à ma connaissance, qui soit plus connu et pourtant si inconnu. Tout le monde connaît Roméo et Juliette, tandis que Pyram et Thisbé sont leurs ombres. Pour établir quelques petits points de passerelle clés entre les deux amants, les deux histoires, on voit que de la même manière que les parents de Pyram et Thisbé ont refusé l'union de leurs enfants, les Capulet et les Montaigu refusent l'union de leurs enfants Roméo et Juliette. Ils les poussent à interagir en secret. Et au final, Roméo croit Juliette morte et décide de se suicider. Juliette se réveille alors d'un profond sommeil dans lequel un poison l'avait momentanément fait passer pour morte. Elle décide de trancher le fil de sa destinée, qui n'a plus de sens sans l'existence de sa moitié, qui vient de courir au trépas. Leurs familles comprennent alors leur erreur et décident d'élever deux statues pour que pour toujours leurs enfants soient réunis et que leur amour illumine la belle Vérone. D'après l'œuvre de Shakespeare, un tout petit extrait, la finale. « Ô Montaigu, mon frère, donne-moi ta main. » Voici le douaire de ma fille, je n'ai rien à te demander de plus. Mais moi, j'ai à te demander plus encore. Je veux dresser une statue de ta fille en or pur. Tant que Vérone gardera son nom, il n'existera pas de figure plus honorée que celle de la loyale et fidèle Juliette. Je veux que Roméo aussi soit près de sa femme, dans la même splendeur, pauvre victime de nos inimitiés. Ainsi nous comprenons qu'à l'instar des parents des jeunes amants, il faut toujours savoir faire la part des choses. Il faut toujours prendre du recul, savoir faire preuve d'un réel discernement. Parfois, pour reprendre la célèbre expression, il faut savoir mettre son orgueil et ses préjugés dans un mouchoir, placer le mouchoir sur une chaise et s'asseoir dessus. Les querelles et les animosités des uns ne sont pas celles des autres. En aucun cas, des parents ne peuvent infliger cela à leur enfant. Nous avons bien vu le risque qu'ils encourent même. Nous pouvons aussi retenir finalement de ce mythe que l'amour que se voue Pyramide Thisbé est sans limite. Même la mort ne les décourage pas de s'aimer, puisque l'un comme l'autre vont faire le choix de mourir, en pensant ou en étant sûr persuadé que l'autre n'est plus de ce monde. L'amour est alors un sentiment qui lie deux êtres pour l'éternité. Il s'agit d'un témoignage d'un amour pur, sincère, d'un amour où l'être qui aime, aime bien plus que sa propre vie l'être aimé. Et sur ce, en espérant que cela vous aura plu et transporté sur les traces des mythes grecs, je vous souhaite une excellente continuation. Portez-vous bien et au mois prochain!
Without you, my soul cries.